Aujourd'hui, exceptionnellement, ce ne sont pas les lectures du jour que je regarde, mais les lectures de la messe qui sera célébrée à Rome et que je célèbre ici pour l'élection du pontife romain. Et donc, ce ne sont pas les lectures qui sont indiquées. Hein, on a choisi de prendre deux des trois lectures romaine, si je puis dire, à savoir Éphésiens 4, 11, 16, et puis Jean 15, 9, 16. Voilà, Si vous voulez un beau commentaire de ces lectures, vous pouvez certainement retrouver l'homélie qu'avait faite le cardinal Ratzinger au moment identique, si je puis dire, à la mort de Jean-Paul II. C'était des lectures assez similaires, si je ne m'abuse, voire les mêmes exactement. Bon, il faut aller retrouver le texte, je ne sais pas s'il est en ligne. Mais vous trouverez une belle homélie. Ici, ce qui est intéressant dans Éphésiens, évidemment, c'est de relever le caractère corporel de l'Église. Donc de bien comprendre, c'est l'occasion de bien percevoir que l'Église n'est pas une société, comme à peu près tout le monde en dehors et même parfois dans l'Église le croit, mais c'est un corps. Ce n'est pas une société avec telle qu'on les entend dans le monde économique ou dans le monde laïque, puisqu'il y a un caractère surnaturel et une représentation de ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire du divin. Et ce n'est donc pas de la politique. Voilà. Alors évidemment, pour des gens qui sont étrangers à l'Église, bon, ça peut les faire sourire dans le pire des cas. Ça les fait se moquer, mais en fait c'est bien la réalité. Nous pensons qu'il y a quelque chose de supérieur qui réclame, enfin c'est notre foi, hein, qui réclame une succession au ministère de Pierre, qui est le vicaire de Jésus, vicaire du Christ. Donc c'est extrêmement important, évidemment. Sachant que, comme dans dans les Écritures saintes, les textes sont inspirés, hein, donc l'inspiration, c'est quelque chose d'extrêmement important, qui est souvent ignoré, qui est que Dieu inspire un auteur pour écrire quelque chose, tout en passant par la culture, les compétences, etc., de la personne. Ce que Dieu fait avec chacun de nous, entre parenthèses, hein, sauf que nous ne sommes pas appelés à écrire quelque chose, d'autant que les Écritures sont closes, donc on ne peut rien y rajouter, et qu'il n'y a rien qu'il faille enlever à ces Écritures. Néanmoins, nous, êtres humains, nous sommes inspirés par l'Esprit Saint parfois, mais pas toujours, pour poser des actes, et l'Esprit Saint passe par nous pour poser ces actes. Donc là, c'est la même chose qui est mise en relief avec un corps, donc la construction du corps du Christ, et ce sont ses ministères qui le permettent. Donc ça insiste beaucoup sur l'idée du service, ça sert à quelque chose, je vais dire. Voilà, c'est pas un titre honorifique, c'est pas une gloriole, c'est pas, ça n'est pas même un pouvoir pour lui-même. C'est un pouvoir dans un esprit de service immédiatement, et plus ce pouvoir s'exercera en lien avec l'histoire de la personne elle-même et de ses blessures, de ses limites, et bien moins ce pouvoir reflétera quelque chose de surnaturel, alors que plus ce pouvoir s'exercera dans l'esprit de la charité, de chercher ce que Dieu veut et d'entendre, d'écouter, de se laisser informé précisément, et donc d'avoir une relation à Dieu qui soit de plus en plus pure, eh bien à ce moment-là, ce pouvoir prend réellement la forme d'un service pour conduire l'Église. Donc vous voyez, le passage s'achève en disant « Nous grandirons de toute manière vers celui qui est la tête, le Christ. » Donc, jamais oublier que la tête de l'Église, c'est le Christ, c'est pas le pape. La tête de l'Église, c'est le Christ. Alors, sur terre, on peut dire que c'est le pape, mais il faut pas faire de confusion entre les deux. Et puis, il y a cette idée de croissance. Donc, l'Église est toujours en croissance. C'est assez curieux, c'est un corps qui a 2000 ans, mais qui est toujours en croissance. On pourrait dire que c'est une vieille dame ou jeune dame, ou à la vue du temps, on ne sait pas très bien, mais voilà, ça n'est pas quelque chose qui a été construit et qu'il faut maintenir, que sais-je, voilà, parce qu'elle aurait vieilli. Non, non, l'Église est un corps qui n'a pas d'âge, qui s'augmente régulièrement, et qui doit être irrigué dans tous ses membres. Donc voilà, donc c'est aussi un peu un enjeu du pape, d'avoir quelqu'un qui ait cette capacité de recevoir un souffle, pour le souffle de l'Esprit-Saint, pour permettre cette irrigation. Alors dans l'Évangile, donc en Jean 15, donc c'est 9 à 17, il me semble. Voilà, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez en mon amour. Alors c'est très intéressant de voir que cette lecture s'ouvre sur le Père. Au commencement, il y a le Père. Le Père est l'origine de toute chose, ce qui signifie que nous devons tourner notre vie spirituelle dans la recherche du visage du Père, et que c'est aussi ce qu'on demande, évidemment, au successeur du Père, de Pierre, et donc de prendre cette confiance, cette conscience de l'amour de Dieu, le nombre de fois où il y a le verbe aimer est assez impressionnant dans ces phrases. Et il est demandé de demeurer dans l'amour, ce qui signifie qu'on peut ne pas demeurer dans l'amour. D'où la question de savoir c'est quoi demeurer dans l'amour, sachant qu'en Dieu, l'amour, la vérité, la liberté, c'est tout un. Donc c'est difficile de bien comprendre, mais il y a toujours cette invitation qui est très très récurrente de demeurer dans l'amour de Dieu et de garder donc les commandements du Père. Toujours cette référence au Père, nous avons un Dieu chez les catholiques qui est Père. Il n'y a pas d'autre religion que la religion chrétienne où Dieu soit Père, tout en étant un Dieu unique. C'est évident, il n'y a pas trois dieux. Faut pas... Au ciel, on n'en verra qu'un. Mais ce n'est pas si difficile à comprendre, ceci dit. Si vous prenez une personne, lorsque je vous parle, ce que je fais en ce moment, c'est ma parole. Pourtant, vous n'allez pas dire que ma parole est distincte de moi. Mais c'est quelque chose que j'exprime. Bon, analogiquement, c'est le Fils qui exprime la parole. Et le souffle qui peut être en moi est aussi dans ma parole. Sinon, vous ne l'entendriez pas. Je parlais sans respirer, il ne se passerait rien, vous n'entendriez rien. Si je ne faisais pas d'espace entre les mots, rien ne serait intelligible. Donc ce souffle est à la fois dans la parole, mais il vient de moi. Père, Fils et Saint-Esprit, vous voyez, c'est bien une personne. C'est bien une personne avec une parole et un souffle qui anime et la personne et la parole. Alors en Dieu, il y a trois personnes, parce qu'on va dire que c'est une relation, donc que l'esprit est une personne, que le souffle est une personne. Mais vous voyez bien qu'il n'y a qu'une seule réalité divine en Dieu. même si on personnifie effectivement l'esprit, parce qu'il a des missions particulières, et de même que l'Esprit Saint, même si à chaque, que le Fils, même si à chaque fois nous n'avons qu'une seule réalité divine. C'est important d'avoir ça à l'esprit. En tout cas, ça permet de comprendre. Alors, c'est toujours une image, hein, donc une image est toujours limitée, il y a toujours des trucs où ça ne marche pas. Mais ça donne un peu une idée de cette réalité trinitaire. Donc, en tout cas, vous voyez cette importance de l'amour qui aboutit dans ce passage à l'idée de donner sa vie pour ses amis. Alors, donner, c'est déposer sa vie. Hein. C'est comme en Jean 13, il déposa son vêtement. Jésus donne sa vie, donc c'est une invitation vraiment à donner sa vie pour le successeur de Pierre. Ce n'est pas s'imposer, c'est donner sa vie. C'est tout de même très important à avoir bien à l'esprit, parce que c'est quand même le modèle aussi pour nous, cette parole de Dieu. Et de considérer que Dieu ne nous fait pas serviteurs, mais amis. Et avec cette finale extrêmement bouleversante qui est « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi ». Donc, c'est Dieu qui nous choisit. Ça peut être l'objet d'un combat spirituel, hein, de prendre conscience que malgré toute notre histoire, malgré toutes nos impressions, malgré toutes nos... tout ce que nous avons pu subir qui n'était pas en place et qui nous ferait dire qu'on n'est pas attendu, qu'on n'est pas qu'on est surnuméraire, que sais-je. Eh bien, il faut demander à Dieu de faire cette expérience de vérité, parce que ça, ce que je viens de dire est un mensonge, cette expérience de vérité que Dieu nous a toujours attendu, a toujours été là. Alors évidemment, ça peut donner aussi lieu à une rébellion, parce que oui, t'étais là et t'as fait quoi ? Donc il y a tout un dialogue avec Dieu qu'il faut engager dans ces situations-là, qui sont parfois très nombreuses. Hein. On a tous des trucs où c'était un peu compliqué à un moment ou à un autre. Et le problème de cette complication, c'est pas qu'il y ait besoin de voilà, on n'a pas à regretter de ne pas faire la taille qu'on voulait faire, c'est pas de cet ordre-là, mais c'est simplement que ça vient polluer notre relation à Dieu. Notamment la paternité, c'est assez compliqué de ce point de vue-là. Si ce qui est de l'ordre de la paternité n'est pas bien en place, eh bien, voire de la maternité aussi, mais un autre domaine, eh bien, notre relation à Dieu en sera impactée. Donc notre croissance, dont parlait Éphésiens, on sera aussi impacté. Voilà, donc essayons d'entrer dans cette prière, de souhaiter, de prier pour ces cardinaux, en attendant que nous recevions, et nous pouvons déjà nous y préparer, pour espérer recevoir un pape, et donc préparer notre cœur à recevoir celui qui nous sera donné. C'est important d'être dans la foi.